Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Je vais montrer justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité.
La plupart d'entre vous le sentent.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements
sur
des
seins.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres et bienvenue sur Le Gang des Hystéries, émission que vous retrouvez sur PFM 99.9 mais aussi en podcast sur le site de Micro Rebelle. Aujourd'hui dans l'émission, il y a bien sûr Lily qui est présente.
Hello.
Et aujourd'hui nous avons la venue d'invités pour une fois. Qui nous viennent des sœurs de la perpétuelle indigence, le couvent du Nord. Nous avons avec nous sœur Pupus du Pubis.
Coucou.
Et nous avons aussi novice Simonacal de Bavoir.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, nous revenons sur ce qui a pu se passer peut-être durant vos fêtes de fin d'année en famille, entre amis ou on ne sait comment. Sur toutes les questions qu'il peut y avoir autour de ces fêtes de fin d'année. Et en deuxième partie, on verra avec nos chères sœurs quels sont nos vœux de lutte pour cette année 2020. Et bien sûr, à toutes, à tous et aux autres, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020. Comme d'habitude, petit retour sur notre agenda qui va être très rapide cette fois-ci. Donc, je rappelle le premier vendredi de chaque mois. Nous avons le bar LGBT qui se tient au local du planning familial. Pour rappel, c'est deux petites heures, trois heures en fonction du temps qu'on y consacre, où c'est un lieu safe pour les personnes LGBT+, qui voudraient discuter de tout et de rien, devant un petit smoothie, des petits biscuits, il y a des jeux de société aussi. Voilà, donc passer un bon moment ensemble. Donc au local du planning familial 45 rue François Gauthier à Lens, et pour le prochain ça sera le 7 février. On a aussi des journées internationales, donc ouais. Tu m'as dit c'était le 2 février, c'est ça Lily?
Alors non, moi j'avais le 6 février,
la
journée internationale de lutte contre les mutilations génitales, pardon. Alors je ris pas du tout à cause de cette journée-là, c'était à cause de celle du 2,
est
autre chose. Mais
Nous avons eu un petit message au niveau du planning familial du national en nous rappelant qu'il y avait une date butoir pour un papier et que cette date butoir est le 2 février, journée internationale de protection des zones humides.
Voilà. Donc et puis c'était, je vois, c'était aussi un truc, donc peut-être que vous allez rebondir là-dessus, sur la journée consacrée ou les vies consacrées ou quelque chose comme
de
ça.
De la vie consacrée.
Parce qu'il faut consacrer sa vie à beaucoup de choses et des choses importantes.
Mais en plus, qui était en lien avec les sœurs, de ce que vous avez dit.
Alors du coup, on a regardé ce que c'était que cette fête, cette journée internationale de la vie consacrée.
Le 2 février aussi.
Et oui. Pareil que les zones humides, fantastique.
C'est magnifique.
Là. Et donc c'est notamment au départ une occasion de Jean-Paul II pour dire qu'il faut fêter toutes les personnes qui consacrent leur vie au Seigneur, et donc notamment les religieux qui en font leur métier. Je ne sais pas vraiment s'il y a un code rom pour ça. Là, c'est une retraite qui est calculée au point, je ne sais pas s'ils font partie des régimes spéciaux. Là, et donc du coup, nous, on a décidé qu'en tant que sœurs, on ne se consacre pas vraiment à Dieu, mais en tout cas, on se consacre aussi à la communauté. Donc ça serait aussi notre journée finalement.
Et une certaine consécration à Sainte Pouve, Sainte Cyclette, voilà. Sainte Apiola, Saint Jean d'Arc et Sainte Sapho.
Entre autres, qui font partie de beaucoup de nos saints patrons.
Bah, très bien tout ça. Donc voilà, le court agenda d'introduction pour. Ouais.
Mais bon, pour revenir pour sur la journée du 6 février,
oui,
aussi. Donc sur les mutilations
génitales,
c'est effectivement l'occasion de pouvoir rappeler à quel point ça peut encore arriver et sous différentes formes. Et qu'on peut venir en discuter dans les associations telles que le planning. Ou d'autres aussi qui luttent sur les questions autour des sexualités. Donc c'est l'occasion de venir en discuter et de récupérer un peu d'infos.
Merci Lily. Donc nous allons pouvoir commencer sur le retour sur les fêtes de fin d'année. Peut-être petite précision pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'émission du mois dernier où nous avions parlé de la Saint-Sida. Est-ce que Sœur Pupus et Novice Simonacal, vous pouvez nous rappeler ce que sont les sœurs de la perpétuelle indulgence rapidement? Parce qu'on vous a présenté au début, mais est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots là-dessus?
Je me lance. Donc les sœurs de la perpétuelle indulgence, c'est un mouvement de sœurs queer qui émerge en 1979 à San Francisco sur la base d'une blague entre amis. Qui revenait dans le quartier, donc c'est...
Castro,
c'est ça, quartier homosexuel. Ils avaient des costumes de bonne sœur et ils se décident, pour faire la bonne blague au moment de Pâques, de descendre dans les rues, se balader avec ses habits de bonne sœur. Et ils voient que les gens quand même sont interpellés et les homosexuels et toutes les personnes de la communauté LGBTQ+, viennent discuter avec eux et ils se rendent compte que c'est pas uniquement des grivoiseries qu'on leur dit, mais il y a vraiment des confessions et une attente du public. Et donc, un an plus tard, il y a une manifestation contre les armes nucléaires auxquelles les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence participent, et ça sera leur première action officielle. Et le mouvement va surtout prendre une émergence dans les années 80, puisque va arriver malheureusement l'épidémie du VIH, qui va tuer majoritairement des personnes homosexuelles, travailleurs du sexe, et les Sœurs vont être la première organisation à faire une plaquette de safe sex, pour dire on ne sait pas ce qui se passe dans nos communautés actuellement, il y a quelque chose qui nous décime, voici les premières mesures à prendre pour éviter que ça se propage. Et donc 40 ans après, nous sommes toujours là. Heureusement, malheureusement, ça c'est parce qu'on a toujours notre action et on est toujours heureuse d'être là, mais ça prouve aussi qu'on a encore besoin de nous. Et donc, l'année dernière c'était les 40 ans et cette année ça va être les 30 ans de l'ordre français. Qui, avec un conclave qui va se dérouler cet été.
Un conclave.
Pardon ?
Un conclave.
Un conclave, c'est lorsque toutes les sœurs du monde, puisque les couvents sont... La création s'est faite à San Francisco, mais après, telle une MST, on s'est répandu à travers tout le monde, que ce soit à la fois en Australie, en Angleterre, en France, et aussi en Amérique du Sud. Enfin,
ouais.
On est vraiment à travers tout le monde. Et pour faire respecter nos 6 vœux, alors est-ce que tu veux que je les énonce ?
Oui, si tu veux.
Donc, le premier vœu, c'est le vœu de paix entre les communautés, de faire en sorte qu'on arrête de se taper dessus parce que tout de même, on a autre chose à faire. Le devoir de mémoire, que ce soit pour les personnes mortes à cause du VIH ou les personnes victimes des attentats tels qu'au Sri Lanka, à Pâques, qu'il y a eu, c'était il y a 2 ans ou 1 an.
Celle morte de LGBT-phobie,
oui.
Aussi. La...
Il y a aussi le devoir de prévention, que ce soit pour les MST, mais aussi pour les drogues, l'alcool, toutes ces choses-là. Il y a la promotion de la joie multiverselle, parce que les sœurs sont avant tout là pour se rappeler qu'on a une certaine fierté à avoir et à se soutenir entre nous. Ce qui va aussi avec le vœu d'expiation de la honte, pour que plus personne n'ait honte d'être LGBT, ou même d'être qui il, elle ou ces personnes sont. Et le vœu de pauvreté, si je...
Pauvreté ? Non. Enfin, on n'en fait pas le vœu, ça vient
naturellement.
ça arrive tout seul. D'un seul coup,
Il y en avait un doute.
Oui, vous en manquez un.
Bon, vous allez le retrouver et tout. Moi, je trouve ça assez sympa de se dire que... Je n'avais jamais vraiment fait de lien, se dire que les couvents, alors peut-être le vôtre, mais surtout... Peu importe les religions, se soient répandues comme les MST partout dans le monde. Je me tiens bien de me venir au cerveau. J'ai dit, tiens, c'est vrai.
Il y a eu des sœurs missionnaires qui sont venues, etc. Là. dans pas mal de pays. Et puis, ça partait de délire à chaque fois d'expliquer. Et puis, ça a pris dans pas mal de lieux. Et voilà, il y a des couvents confirmés, d'autres qui renaissent au fur et à mesure. Voilà, c'est un mouvement qui continue.
Et du coup, perpétuelle indulgence, j'avais envie de me dire, je vois à peu près, hein, mais comment ça s'est choisi, ce mot-là?
Ça faisait partie de la blague au début. C'est elles qui ont choisi ça. Alors je ne sais plus la raison précise pour la perpétuelle indulgence, mais je pense que c'est dans l'idée d'accepter les gens tels qu'ils sont.
C'était pour dire que finalement, le travail que l'Église ne faisait pas, notamment d'accepter toutes les ouailles dans ce qu'elles étaient, dans leur orientation sexuelle, dans leur vie plurielle, et ben en tout cas, c'était des bonnes sœurs qui allaient elles le faire, et donc des bonnes sœurs un peu particulières.
Avec moult paillettes.
Biodégradables,
Attention,
évidemment.
ouais.
Beaucoup plus fun.
Si vous avez l'occasion un jour de croiser les sœurs et d'assister à l'une de leurs messes, comme il y a eu par exemple pour le banquet de la Saint-Sylla, c'est vraiment un bon moment de partage. On passe du rire aux larmes, je vous en avais déjà parlé dans l'émission précédente, mais non, franchement, allez-y. Et puis elles sont très accessibles, vous pouvez leur parler de tout et de n'importe quoi. Voilà, elles sont là pour tout ça. Merci beaucoup pour cette petite parenthèse. Donc venons-en à notre sujet maintenant, le retour sur les fêtes de fin d'année, en espérant que ça s'est bien passé pour vous. Mais est-ce que c'est ça qui se passe de partout? On pense par exemple à la communauté LGBT plus, qui certains enfants ne sont pas les bienvenus malheureusement dans certaines familles à cause de leur orientation.
Oui, c'est vrai qu'on parle des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël ou des fêtes de famille. Et puis bon, on sait que c'est un truc un peu rouleau compresseur, c'est-à-dire que c'est et le passage obligé et en même temps quelque chose qui peut être douloureux de se rappeler que peut-être qu'en famille, c'est pas vraiment une fête de famille, ou en tout cas que la famille, c'est douloureux. Enfin, on essaye de nous inculquer le fait que la famille, ce sera un tout, ce sera un objectif de vie. Et que tout se passerait superbement bien toujours en famille. Et alors, pour remettre tout un tas de statistiques en face, hein, je pense déjà, ne serait-ce que ça va être un peu glauque, hein, mais rien que sur les agressions sexuelles faites aux enfants, où 80% d'entre elles sont faites de l'entourage proche, donc on peut se dire que tout compte fait, des fois, la famille, c'est quand même pas hyper top fun. Sans parler de la violence conjugale, hein, bim, dire les fêtes, c'est sympa. Et effectivement, il y a toute la partie, quand notre famille ne nous accepte pas tel que l'on est, ouais, les fêtes de famille, c'est plutôt ou un truc pénible ben voilà, ou un truc qui
Ce
n'existe
qu'on
pas,
esquive,
voilà, qu'on esquive. Ouais, voilà.
la famille, c'est quand même le réunir des personnes qui ne sont pas choisies.
Ouais.
Là, contrairement à des amis qu'on peut souvent aussi appeler notre famille, finalement, parce que c'est des personnes qu'on a choisies, dont on partage pas mal de valeurs. La famille, finalement, c'est mettre autour d'une table plein de gens qui, à part avoir le même sang, si on peut dire ça, et encore pas toujours, pas forcément, sont réunis alors qu'ils partagent pas forcément les mêmes valeurs. Ils sont pas forcément des mêmes orientations politiques, il n'y a pas forcément le même niveau d'acceptation de l'autre, etc. Donc forcément, quand en plus on est en minorité dans sa famille, ça peut devenir très oppressant, ça peut devenir extrêmement compliqué, ça peut être des moments difficiles selon le mode de communication de la famille. Et du coup, enfin, moi j'ai assisté aussi, notamment sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de personnes qui font le choix de se réunir en famille, mais avec une famille choisie, et de créer d'autres traditions, de vivre d'autres moments. Et je trouve ça d'autant plus important et précieux, en tout
Oui.
cas, de faire ce choix.
C'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Non pas pour dire, genre, les fêtes de famille, fêtes de fin d'année, c'est has-been ou je sais pas quoi. Non, évidemment, quand ça se passe bien, quand on en a envie et tout, voilà, que les gens soient libres de le faire comme ils souhaitent. Mais c'était pour ouvrir un peu une fenêtre, pour dire qu'il y a d'autres manières de faire quand, finalement, on se coltine ces fêtes. que ce soit, oui, comme tu le disais, hein, on n'a pas envie de se taper la vieille tante avec les relents fascisants de quand elle regarde BFM, ou effectivement, on nous fait des reproches parce qu'à tel âge, on n'est toujours pas marié et que personne n'a encore percuté, que, en tout cas, ça ne sera pas fait avec la personne que toute la famille imagine, et tout ça. Mais il y a la possibilité de faire effectivement autrement, y compris d'éviter aussi la course au consumérisme. Je pense aussi que même si on s'entend bien avec sa famille, même si on a envie de les voir parce qu'on ne se voit peut-être pas effectivement toute l'année, donc on a envie de se réunir, c'est aussi des fois un peu lourdingue de se coltiner voilà, cette course au consumérisme, que ce soit quand on a envie de préserver un peu la planète, mais aussi quand on n'en a pas les moyens. Enfin, passer les fêtes, quand on n'a pas trop de thunes et se dire « Ah merde, je vais encore me passer un Noël à donner un tout petit cadeau qui va avoir l'air complètement pourri alors que les autres vont offrir des trucs vraiment énormes et qu'il y a des budgets qui sont consacrés, qui sont absolument hallucinants pour les fêtes de Noël et qu'on ne peut pas rivaliser. » Voilà, tout ça, il y a la possibilité effectivement de faire autrement entre amis, sous une autre forme.
Et puis j'ai l'impression qu'on questionne aussi de plus en plus ce que c'est que Noël, notamment par les débats sur alors, le foie gras, comment c'est fait, d'où ça vient. J'ai pas l'impression qu'il y a 15 ans, finalement, il y avait du foie gras à table, point. Maintenant, ça devient un débat. Le saumon, d'où il vient, comment c'est fait, etc. Les emballages cadeaux, est-ce que vraiment il faut qu'on aille acheter des rouleaux d'emballages cadeaux qui du coup vont juste être ouverts pour être mis dans la cheminée ou la poubelle juste après? Enfin voilà, on commence à voir des initiatives, des discussions, des débats. Alors ça ne veut pas dire que c'est général, ça s'est généralisé, mais en tout cas ça commence à émerger pour voir d'autres formes de moyens d'avoir une tradition familiale, de repartir sur d'autres bases qui sont peut-être un peu plus équitables, un peu plus en cohérence avec des buts écologiques ou pour respecter un peu plus ce que ressent chacune, à voir.
Voilà, et puis c'était l'occasion de dire du coup on peut faire autrement, c'est possible et on n'est pas des mauvais enfants, mauvais tonton, tata, mauvais parents ou cousin, cousine en ayant envie de faire autrement, mais que c'est possible de le faire. Voilà, il y a d'autres formes, entre copains ou... Moi, je sais que dans des réseaux associatifs, on avait été amené à faire des Noëls avec des personnes exilées qui étaient en transit, donc qui n'ont pas l'intention de s'installer sur le territoire français, mais qui du coup étaient dans des camps. Et donc, on a organisé des Noëls tous ensemble. Et en fait, on a été surpris de voir que ça donnait l'occasion à des bénévoles du coin d'échapper à un Noël pénible, et aussi des personnes seules, isolées, qui n'ont pas de famille, pour qui les voisins, comme c'est supposé être une fête vraiment familiale, donc on a du mal à ouvrir ça à d'autres personnes. Et donc on a eu des personnes âgées ou pas qui étaient seules et qui nous avaient interrogé pour savoir est-ce que je peux venir, parce que ça me déprime d'être seule le soir de Noël, et là je vois que vous avez prévu quelque chose et je trouve ça plutôt chouette. Et donc on a passé voilà des Noëls qui avait l'air improbable, avec des gens venus de partout dans le monde, de différents horizons, différentes classes sociales, et c'était vraiment très chouette.
Et à l'inverse, c'est des personnes qui ne veulent pas fêter Noël, et qui même pour le... Parce que c'est pas que Noël, il y a aussi le jour de l'an, et il y a des personnes qui ne souhaitent pas faire aucun des réveillons, enfin qui ne souhaitent faire aucun des réveillons pour les fêtes de fin d'année aussi, là, il n'y a pas de souci, Chacun fait ce qu'il veut.
On a le droit de ne pas le faire.
Ouais. Si on vous parle aussi de ces fêtes de fin d'année, c'est qu'il y a aussi une question de sexualité derrière tout ça. Déjà, première chose, la sexualité, quand on est alcoolisé ou, comme on parlait tout à l'heure aussi avec Sœur Pupus, quand on est aussi
sous-produit. Enfin,
parce que qui dit fête, qui dit nouvel an. Faut revenir sur le nouvel an, on sait que ce n'est pas simplement attendre minuit, faire le décompte. À partir d'un certain âge jusqu'à un certain âge, je ne dirai pas lesquels, chacun choisissez comme vous voulez, mais le nouvel an, c'est l'occasion d'une énorme fête et obligée avec ses codes, mais ça va souvent avec énormément d'alcool.
Il y a la cocaïne du nouvel an, la célèbre tradition, la coke champagne du nouvel an, des personnes qui en consommeront peut-être qu'une seule fois par an, c'est nouvel an. Mais alors oui, moi je rappelle quand même que l'alcool est une drogue, donc du coup forcément il y a beaucoup d'événements traditionnels et festifs où il y a de la consommation de drogue, puisque il y a souvent quand même de l'alcool. Et il y a toujours, forcément, là, pour beaucoup, il y a aussi des consommations de produits stimulants, ou notamment comme l'ecstasy, cocaïne, speed. Peut y avoir aussi tout ce qui peut être un peu plus psychédélique, comme du prise de LSD. On a aussi l'arrivée sur pas mal de soirées du GHB-GBL.
C'est-à-dire ?
Alors, le gamma-hydroxybutyrate, qui...
Alors,
c'est-à-dire ?
Donc, le GBL, GHB, c'est un dépresseur, donc comme l'alcool. Globalement, si on veut vraiment le résumer, ça va faire en nombre de gouttes ce que l'alcool fera en nombre de verres. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi en risque le même principe que le coma éthylique, mais qu'on va appeler le GHOL par rapport au GHB. Et dont la conséquence vraiment ultime sera le décès, pareil que par rapport au coma éthylique.
Et c'est ce qu'on appelle la drogue du violeur.
C'est ce que les médias ont appelé la drogue du violeur. Ce qui est du coup, en tout cas, moi, ce que je trouve un peu difficile, c'est parce que la première drogue du viol, clairement, elle s'appelle l'alcool.
Oui. Donc, j'allais dire, en premier risque suite aux soirées alcoolisées, c'est effectivement le sexe pendant des soirées alcoolisées, et donc toute la dimension à la fois du consentement ou du non-consentement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut s'assurer du consentement de quelqu'un quand on est extrêmement alcoolisé, ou de son propre consentement, hein, d'ailleurs, sans aller jusqu'à parler effectivement d'agression sexuelle ou de viol. C'est le fait d'être... vraiment alcoolisé, il se passe des choses sexuellement très explicites, et puis le lendemain on se dit ouh là, je crois que j'ai fait une connerie. Ou ne pas s'en souvenir.
Hein, et là, fois à se dire où est-ce que je suis
passé.
Est-ce que j'ai eu
les fameuses pubs où on voyait, on se réveillait dans un lit, puis on regardait la personne à côté du lit, on se dit ouh là, mais qui est-ce, où suis-je ?
Je ne suis pas dans ma chambre.
C'était une boutade, ça fait rire et tout, mais en fait, il y a quand même des conséquences derrière. En termes de bien-être, comment on sent avec soi-même, mais aussi de risque de grossesse, au moins pour les personnes détentrices d'un utérus, ou de risque de mettre quelqu'un enceinte. Enfin, j'ai l'impression que sous alcool, je fais un gros stéréotype de cisgenre hétéro, où je me dis que moi, les mecs se posent très peu la question de comment ils mettent en cloque les nanas. D'un soir ou pas un soir, hein. J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt les gonzesses qui gèrent l'après-fête. Mais du coup, effectivement, on sait selon les statistiques qu'il y a un pic de grossesse en septembre, et que le pic de grossesse en septembre est dû justement aux vacances.
À la soirée du Nouvel An.
Voilà, et à la soirée du Nouvel An. Donc ça pose question. Et on sait aussi que si on avait des statistiques plus fines et plus transparentes des centres pour les interruptions volontaires de grossesse, on verrait également un pic courant janvier-février, dû à effectivement cette soirée. Parce que qui dit soirée alcoolisée, dit on n'a peut-être pas prévu, soit on a gerbé sa pilule, clairement, ou on ne l'a pas prévu, ou elle ne fonctionne pas parce que sous la grosse dose d'alcool, elle va mal fonctionner, ou on n'a pas prévu de contraceptif, parce qu'on avait prévu de faire la fête, mais pas nécessairement prévu d'avoir une relation sexuelle. Et donc, il y a des...
Et puis des fois, même moi, j'ai eu pas mal de récits de personnes qui prévoient, qui ont des préservatifs sur elles, dans leur poche, et au moment où elles devraient du coup sortir ce préservatif, eh bien non, clairement, c'est souvent aussi lié à une prise de produit qui va désinhiber. La plupart des produits, on sait que ça va inhiber par contre la notion de risque. Donc on se dit, ouais, c'est bon, ça passe. Ou ah bah non, je m'enlèverai au dernier moment.
Le fameux coït interrompu.
Voilà.
Étonne approuvé par l'Église.
Oui. Donc forcément, ça donne pas mal de prises de risques. Et puis, cette idée aussi de ne pas tout de suite faire le nécessaire, parce que le lendemain, on est... Globalement, la société nous amène au fameux walk of shame, où on a honte, on ne sait pas ce qui s'est passé, où on se dit que c'est bien fait pour nous parce qu'on avait... Kappa, Alors ça, qui n'a pas à prendre des produits,
voilà. On a la flemme, on met peut-être des fois 2 ou 3 jours pour se remettre de la soirée.
Et donc forcément, aller chercher un traitement d'urgence aux urgences par rapport à une prise de risque VIH, par exemple, c'est compliqué, ça peut être compliqué parce qu'on ne sait pas trop quoi dire, parce qu'on n'a pas envie de raconter, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Mmh. Et donc on ne sait pas expliquer. Soyons bien entourés à ce niveau-là, ayons vraiment des personnes de confiance à qui pouvoir en parler. Et quand on est une personne de confiance, savoir où orienter, aider la personne selon sa motivation, selon son besoin, son envie, pour essayer de lui dire potentiellement quels seraient les risques, qu'est-ce qu'on doit essayer de traiter maintenant au niveau contraception d'urgence, au niveau traitement post-exposition par rapport au VIH, gérer aussi tout l'aspect mental et psychologique de quand on ne se souvient plus de ce qui s'est passé ou qu'on a vécu une agression sexuelle, vers où s'orienter, à qui en parler au fur et à mesure, selon l'envie.
Donc effectivement, en tout cas sur les questions de questionnement autour des infections sexuellement transmissibles ou de grossesse, donc là les personnes peuvent contacter au moins le planning, alors soit via la page Facebook, soit par téléphone, on remettra les contacts sur la page de Micro Rebelle. Il y a aussi le Cégide, hein, je pense, pour tout ce qui est dépistage et traitement post-exposition.
Traitement post-exposition, c'est plus les urgences.
Ouais. D'accord. Mais en tout cas, Cégide peut au moins accueillir les interrogations, les craintes et puis réorienter. Parce que dans les IST, dans les infections sexuellement transmissibles, il y a effectivement le VIH, mais je pense aussi à tout ce qui est chlamydia ou autres qui vont être aussi extrêmement courantes et nécessiteront une prise d'antibiotiques qui pourraient être délivrées au Cégide.
Ouais, malheureusement, ce genre de système, on est obligé de passer par un dépistage et le dépistage n'est faisable suivant l'IST que plusieurs semaines après le rapport. Voilà. Donc il faudra attendre un certain temps, tout dépend de l'IST, mais on considère, par exemple pour le VIH, on peut commencer à avoir des traces au bout d'un mois. Donc ils considèrent qu'au bout de 6 semaines, on aurait des traces de toute IST possible, attrapable et quantifiable. Voilà. Donc tout dépend, il faut se renseigner auprès du Cégide en fait.
Donc on peut se dire que si les personnes qui nous écoutent ont eu un doute sur leur soirée du Nouvel An, dans la deuxième...
Pour le 14 février, c'est
voilà,
bon.
Voilà, super, ça tombe à pile poil, le 14 février. Donc elles peuvent se déplacer auprès du Cégide pour avoir un entretien et puis un dépistage. Et je voulais revenir aussi sur la notion de consentement, où effectivement, quand tu parlais de l'alcool ou d'autres produits qui désinhibent ou qui font qu'on perde conscience, qu'on soit toujours debout, toujours actif, mais qu'on puisse pas se rappeler effectivement le lendemain. Moi, ça fait écho à pas mal de ce qu'on appelle aussi le... Je cherche les mots en français pour essayer de faire un truc un peu moins...
Dis-le en anglais, on peut le traduire.
Vois, comme le slut-shaming ou des choses comme ça.
C'est ce que disait la marche de la honte. Il n'y a pas de mot en français.
Marche de la honte, c'est pas mal.
Ouais.
Sur le fait que...
C'est la séduction française. La séduction
française. Voilà, c'est ça.
C'est ça. Le fait de considérer les hommes comme des donjons et une femme qui aurait autant de conquêtes serait considérée comme une traînée.
Voilà, et puis sur le fait qu'une femme ayant bu, ce qui peut lui arriver, peu importe ce qui peut lui arriver, ce serait automatiquement de sa faute. En fait, elle n'aurait pas dû boire ou pas dû boire autant.
C'est une sorte de charge mentale en fait sur la sexualité.
Voilà, puis c'est pas après, c'est-à-dire que moi, c'est sur des adolescents, par exemple, ou des jeunes adultes, garçons, qui pour eux présupposaient que de toute façon, une femme qui boit, et donc quand on rencontre une femme qui aurait l'air d'avoir bu, c'est-à-dire que nécessairement, elle est consentante. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question du consentement, mais qu'il est possible de faire quelque chose avec cette fille ou cette femme-là.
C'est une fille facile une fois qu'elle a bu.
Voilà, c'est pas nécessairement, quand on regarde l'effet après, c'est vraiment la manière dont ils se présentaient, ils s'imaginaient les soirées et de se dire bon bah c'est presque cool quand il y a des meufs qui boivent parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire plein de trucs.
C'est les fameux vautours de soirée qui vont attendre en gros que la jeune fille soit bien bourrée et lui payer des verres, etc. On remercie aussi tous les lieux festifs qui notamment pour des raisons commerciales mais aussi pour attirer aussi ces fameux vautours vont permettre l'entrée gratuite aux filles avec alcool à volonté, notamment avant minuit, pour envoyer le message du coup, là, notamment à la population masculine, allez, venez à partir de minuit, elles seront déjà bourrées, vous pouvez y aller, quoi.
Et même pas la peine de leur payer leur verre.
Voilà.
C'est ça. Alors sur Wikipédia, après c'est Wikipédia, donc voilà, ils traduisent le slut-shaming par couvrir de honte les salopes. Bon, ça serait de la traduction littérale. Et il y a aussi intimidation des salopes. C'est Wikipédia qui donne ça. Donc il y a des termes en français, mais c'est vrai que le slut shaming, il y a beaucoup de shaming. Hein. On peut mettre plein de préfixes à tout ça. Il y a plein de choses qui se font couvrir de honte. Et
Donc tout ça pour rappeler quand même que effectivement quand on part en soirée, qu'on soit fille ou garçon, homme ou femme ou autre, même neutre, qu'on puisse avoir en tête le fait que oui, il y a un risque qui est spécifique aux femmes lorsqu'elles sont en soirée et que du coup, il faut l'avoir en tête pour qu'entre copines, on puisse se soutenir et se surveiller et qu'on puisse en discuter avant pour que les copains aient bien conscience que ça existe et que parfois, c'est eux-mêmes qui sont... agresseurs, quoi, et que si on en a parlé avant et que ce soit assez clair, et ben on peut organiser une dynamique de groupe qui soit plutôt protectrice des unes et des autres, et surveiller les autres, les vautours, effectivement, autour pour qu'il y ait vraiment cette question-là, et que ça puisse aussi changer, pour qu'on puisse régulièrement se dire, ben, quand même, quand toi, en tant que mec, tu bois, tu te retrouves à 2-3 grammes, que tu titubes ou autre, tu as le risque de te casser la gueule, tu as le risque d'avoir des ennuis peut-être avec d'autres si tu cherches un peu la merde ou autre et tout, mais tu as moins le risque de te retrouver avec un pénis à un endroit où tu n'étais pas sûr d'avoir choisi ou je ne sais quoi. Parce que les mecs et les copains hétéros n'ont pas du tout cette notion-là, comme si c'était un espèce de truc naturel et que tout compte fait un pénis dans un orifice féminin, c'est comme si c'était un truc complètement naturel et que ce n'était pas si dramatique. Et donc vraiment leur fait de rappeler le pendant, de dire qu'est-ce que ça te ferait toi en fait, voilà, si tu te réveilles le lendemain et que tu dis putain il s'est passé des trucs sur mon corps, d'une tu t'en souviens pas et tu te dirais pas automatiquement, tu dirais la première remarque c'est de te dire qui m'a fait ça, comment on a pu oser me faire ça, plutôt que de dire ah merde c'est ma faute, j'aurais pas dû me mettre dans ces états-là.
Et surtout se rappeler qu'agression sexuelle c'est pas seulement pénétration, il y a plein de formes, juste une main aux fesses. Par exemple, c'est une forme d'agression sexuelle, c'est pas aller jusqu'au viol, pénétration avec bien sûr le sexe, etc. Il y a aussi d'autres formes et que c'est un. Alors je sais jamais la différence entre un délit et un crime, mais en tout cas c'est pénalement.
Mais l'agression sexuelle est un délit, le viol est un crime.
Voilà, je sais jamais dans quel sens le dire, donc merci beaucoup. Mais voilà, il faut.
Mais effectivement, il faut pouvoir compter les uns et les autres sur soi en soirée et puis pour pouvoir affirmer, ben oui, c'est pas parce que je suis une nana que... Alors en même temps, on n'est pas en train de faire l'apologie de l'alcool et des drogues nécessairement, mais se dire, pour les potentiels agresseurs ou ceux qui sont capables du coup de jeter la pierre, c'est vraiment de leur dire, mais toi, quand toi tu te permets ça, t'imagines pas ce qui puisse t'arriver, les mêmes choses. Donc il n'y a pas de raison de s'en prendre et tout aux femmes qui auraient bu plus que de raison pour leur santé et qui auraient dépassé la modération.
Ouais. Et pour pas devenir cet agresseur, ça pose aussi le problème de la communication. Quand on est en plein préliminaire, en plein rapport sexuel, de pouvoir plusieurs fois dire à ses partenaires, est-ce que là, tu es dans l'envie d'avoir ce rapport sexuel? Est-ce que tu es dans l'envie de cette pratique que je te propose? Est-ce que ça te va si on change de pratique ou pas? C'est pas forcément des tue-l'amour. C'est souvent, le préservatif, c'est un tue-l'amour. Alors bon, bah, faut mieux pas le mettre. Bah, je pense qu'il y a des jeux qui font que le préservatif, ça peut devenir aussi très sensuel et très chouette. Ça dépend comment c'est amené.
Et j'arrive pas à bander avec préservatif.
Ah, voilà.
Dans ce cas-là, pas de pénétration, pas de fellation. Voilà.
Puni. Et mis avec la bouche un préservatif, ça peut devenir sympathique, par exemple.
Ça
notamment.
Devient aussi du défi.
Ah, ça demande un peu d'exercice. Je pense que des fois, une personne qui demande, qui vérifie en tout cas le consentement de l'autre, ça peut aussi être super mignon, plutôt que la personne qui prend, qui te retourne comme ça, qui t'impose et qui te demande après une fois que la pratique a commencé, ouais, ça va, ça le fait. Bah, en fait, tu t'es déjà permis. En fait. Ouais. Ou là, du coup, tu dois juste consentir à ce que la pratique continue, mais elle ne t'a pas été proposée en fait. C'est que du coup, ça a déjà commencé, on te demande après si ça va. Moi j'aurais bien aimé qu'on me demande juste avant en fait, plutôt qu'on me l'impose.
Si la personne répond pas trop, ou si la personne répond oh là là, je crois que je vais gerber, ou d'autres choses et tout, ça, voilà, ça veut pas dire aussi que déjà on peut se dire ah tiens, j'ai pas un oui clair, elle, oui, elle a pas l'air en transe. Donc, peut-être que je peux reposer la question une autre fois, ralentir un peu pour essayer de voir si ça vaut le coup vraiment de continuer. Et en tout cas, si par exemple la personne ne répond pas du tout, si elle ne bouge pas d'ailleurs et qu'elle a les yeux fermés, en gros, il n'y a du coup pas du tout de consentement, ce qui n'est pas toujours très clair chez plein de gens.
C'est la chanson de pendant la messe, hein.
Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et quand on ne sait pas, on garde ses doigts pour soi.
Voilà, un petit intermède musical.
Mais oui, puis dans ces cas-là, à ce moment-là, l'acte le plus sensuel et le plus romantique que vous puissiez faire, c'est soit amener la personne aux toilettes pour qu'elle puisse vomir tranquillement en lui tenant la tête, ou lui amener un verre d'eau, ou lui mettre une couette dessus pour qu'elle puisse se reposer et que le lendemain, elle soit un peu moins déphasée.
Des fois, se dire aussi... quand on a consommé pas mal de produits, en fait, je sais que je vais faire de la merde. Je sais que de toute façon, je vais être à 20 cm de ton clito. Je sais que je vais faire n'importe quoi. Je vais titiller n'importe comment, parce que je n'y vois rien, parce que je suis complètement dans le brouillard. On sait que ça va être naze en plus. On sait qu'on va pas passer un bon moment. On le fait. Enfin, je sais pas pourquoi on se lance.
Oui, mais je me dis, si les deux on sont déphasés et dans le consentement, ça peut créer des bons souvenirs au coin du feu.
Si on peut quand même en rigoler.
Et c'est là où c'est compliqué. C'est à partir de quel moment, au niveau de la prise de produit, tu peux donner ton consentement ou alors tu n'es plus à même de le donner. Et c'est là où ça devient compliqué. Quand les deux, en gros, sont vraiment dans un état proche de l'Ohio, etc. globalement, c'est deux personnes qui sont, au niveau pénal, qui ne sont plus en état de le donner, ce consentement. Alors bon, ça va, parce que les deux couchent ensemble. Donc je dirais qu'on a deux personnes qui sont au même niveau. Mais ça reste quand même assez rare d'être deux vraiment à ne pas savoir ce qu'on est en train de faire. Globalement, moi, je me dis que ça existe peu.
Puis en plus, tout va dépendre aussi de l'interprétation. C'est pas tant l'état factuel, d'autant plus qu'il y a normalement pas d'autres observateurs, observatrices autour pour juger quel est l'état des deux personnes. Mais c'est l'interprétation qu'on va faire. Et c'est là aussi où naissent des fois les incompréhensions quand on voit certaines fois où ça termine au tribunal et où on a quasi de bonne foi des personnes qui se disent qu'ils sont... catastrophés parce que comme ils n'ont pas été éduqués au consentement, éduqués à poser la question, à vérifier et donc tombent des nues quand se retrouvent effectivement avec une plainte parce qu'ils n'ont pas vérifié le consentement, parce qu'ils y sont allés quand même et qu'ils étaient eux-mêmes un peu stone ou autre et de se dire c'était le même état et qu'en fait non, l'autre personne l'a pas du tout vécu de la même manière. Donc
ça on est d'accord, en 2020, ça on peut plus dire qu'on n'était pas au courant.
On est marré.
C'est bon.
On est marré.
Oui, c'est pas faute de le rappeler. Ouais, hein.
Voilà. Il faut toujours le rappeler, piqûre de rappel, toujours. Ouais, et puis on reste toujours dans le désespoir de voir que, je crois que je dois le dire à chaque émission, je vais essayer de me trouver un pseudo avec ce truc-là. Mais on est au désespoir de voir qu'on a un super outil qui permettrait de toucher tous les enfants français, enfin en tout cas qui fréquentent les écoles françaises et de la République, qui oblige normalement toutes les écoles à faire 3 séances d'éducation à la vie affective et relationnel chaque année, depuis le CP.
Chaque année ?
Oui, chaque année, depuis le CP jusqu'à la terminale. Alors, je ne suis loi pas en train Aubry de dire...
Loi Aubry de 2001.
Voilà, la loi Aubry.
Je pensais que c'était 3 entre le CP jusqu'à la terminale.
Non, 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 c'est ce qui est fait de pour 25% des Français qui sortent, qui ont le bac. Ils ont effectivement eu 3 séances dans leur cursus. Donc, une en 4e, 3e, une éventuellement en seconde. Puis alors la troisième, je ne sais pas trop quand, ils assistent à un forum santé qui est fait dans le lycée, donc ça sert de troisième.
Peut-être la terminale.
Ou éventuellement, ou alors dans les cours de sciences nat ou biologie, sciences et vie de la terre.
Je sais pas, je suis SVT.
SVT, voilà, merci.
Sciences nat, c'était
ouais,
avant.
Ouais, je suis un peu ringarde, pardon. Mais du coup, non, c'est 3 séances chaque année. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faille parler à des enfants de 6e ou de CP des risques après Beuverie de Nouvel An. Non, on adapte son discours. Donc, on peut peut-être démarrer ça sur le consentement sous alcool, sous stupéfiant, à partir de la seconde, la première, parce qu'on ne veut pas choquer les parents et choquer le personnel de l'éducation nationale, même si on sait que dans plein de régions, on commence sa première biture à l'âge de 13 ou 14 ans.
Dans le cadre familial.
Donc, voilà, dans le cadre familial. Donc, bon, il faudrait arrêter d'être un peu naïf hein, et se dire « Oh, pas de ça chez nous, c'est toujours chez les autres. » Ah non.
C'est le patrimoine.
Voilà, donc si on avait. Exactement. Si on avait ces 3 séances, si elles étaient vraiment appliquées, on pourrait imaginer qu'effectivement, dès l'autorisation d'un nouvel an hors de la famille, à 16 ans, ou alors je suis hyper ringarde, peut-être c'est plus tôt, bon bref, quand vous voulez, quand vous autoriserez vos enfants, vous pourrez vous dire ah ben oui, mais moi j'autorise mon fils à aller dans une soirée du nouvel an, mais je sais qu'il est au courant que si les copines et les copains sont complètement bourrés ou autres, et ben non, il ne pourra pas se permettre d'avoir des relations sexuelles avec il ou elle et vice-versa et donc on pourrait imaginer qu'il y ait effectivement moins de soucis de consentement, alors que ce soit pour Nouvel An, c'est valable pour tout type de soirée hein, évidemment.
C'est aussi travailler toutes les compétences psychosociales en fait, aider chaque jeune à s'affirmer, à savoir dire non face à la pression d'un groupe, à avoir de l'estime de soi et pouvoir rappeler aussi à chaque jeune que c'est une personne unique, formidable, et que c'est important que cette personne soit fière d'elle. Parce que du coup, dans ces situations-là, elle pourra aussi dire non, elle pourra aussi choisir ou non de consommer en prenant en compte les effets, les risques, l'environnement, et aussi alerter si jamais il y a une situation de danger ou autre.
Voilà, c'est vraiment que... Pardon, vas-y.
Le fait de détruire la virilité toxique en disant justement « tu n'es pas un homme parce que tu as réussi à troncher une nana dans une soirée qui avait 4 grammes dans chaque bras, tu le seras vraiment lorsque tu auras fait attention à elle et à partir du moment où elle t'aura dit non, tu auras respecté son nom. » Parce que pour l'instant, malheureusement, la prévention se fait du côté des nanas en disant « allez accompagner, faites attention à votre verte, etc. Ouais. » Alors que la seule prévention qu'il devrait avoir, c'est dire au mec « ne violez pas et soyez respectueux de vos partenaires sexuels et affectifs. »
Agir sur les auteurs plutôt que sur les victimes tout le temps.
Ça... Oui. Voilà. Donc, peut-être que pour... ce sera un de mes voeux, tiens, pour l'année 2020, que au moins au sein des mouvements féministes, LGBT et tout, on s'empare de cette histoire de loi d'Aubry de 2001 et qu'on mette un peu la pression... sur nos élus locaux, parce qu'il faut bien imaginer que même si l'éducation nationale est gérée par le ministère, hein, mais n'empêche que les mairies ont un lien avec les écoles primaires, les écoles maternelles et les écoles primaires, donc elles seraient en mesure d'interroger les directeurs, directrices d'écoles pour savoir ce qui est fait en matière d'application de cette loi Aubry, et peut-être de financer aussi ou de pousser l'éducation nationale à utiliser les crédits qui sont dédiés à l'application de cette loi, mais qui sont toujours utilisés pour faire autre chose, là, les pousser à les utiliser pour appliquer cette loi, et que si les instits sont mal à l'aise parce qu'ils trouvent ça très perturbant de parler de vie affective et sexuelle, parce qu'il y a sexe dedans,
là
à des
là.
Enfants de de 6 à 12 ans, eh ben, on peut faire appel à du partenariat. Je pense que ce serait nécessaire même de l'imaginer uniquement avec du partenariat, donc au et sein des mouvements d'éducation populaire, pour pas faire borner cette éducation-là à une leçon de morale, mais bien à un apprentissage, à une écoute des uns et des autres, pour que dès l'âge de 6 ans, les garçons prennent conscience qu'effectivement, on leur transmet des notions de masculinité toxique, et qu'ils pourraient faire autrement, parce qu'en fait, ils se marrent bien avec les copines, et que du coup, leur laisser la place, leur laisser la parole, partager les jeux dans la cour, ça pourrait démarrer à 6 ans. Enfin, moi, j'aurais envie de dire que ça démarre dès la maternelle, hein, mais bon, pour l'instant, la loi ne nous le permet pas. Mais appliquons déjà celle qui existe, donc de 6 ans à la terminale, et je pense que ça ferait beaucoup évoluer notre société.
Au niveau des sœurs, qu'est-ce que vous nous proposez comme vœu pour cette année 2020 ?
Le minimum ?
La destruction du patriarcat et du capitalisme.
Voilà.
Ouh là là.
Juste ça. Vraiment le pour janvier, quoi.
Le minimum.
Voilà.
Au 31, ça sera... C'est ça ?
Voilà. Normalement, ça devrait être réglé, là, en quelques jours. Je pense qu'on est sur la fin, là.
Avec une mandarine, et ça serait parfait.
Voilà. À la fin du mois, sans alcool, c'est ça ? Du dry...
dry January. Voilà.
Je pense que si tout le monde est sobre, ils se rendront compte que c'est pas un modèle viable sur le long terme.
Voilà. C'est ça, le problème.
Oui.
En gros, peut-être que... Alors, on a eu un débat tout à l'heure, un peu, enfin vite fait, dans la voiture, en disant... Si on détruit le capitalisme, peut-être que le patriarcat tombe en même temps. On se dit que c'était peut-être du coup le normalement, voilà, si on a un autre modèle.
On fait souvent l'association entre les deux. Hein, donc
peut-être que juste détruire le capitalisme suffirait à en même temps détruire le patriarcat. Peut-être que détruire le patriarcat, ça enlève aussi le capitalisme. On va dire les deux au moins pour être sûr.
Par quel bout le prendre, hein.
De toute façon, Monique Wittig disait « Vivre en société, c'est vivre en hétérosexualité, comprenant le patriarcat et le capitalisme, et des pentes... » Donc, Wittig disait ça en 92, et des pentes en 2006 dans King Kong Theory disait « Le principe n'est pas de voir les petits avantages de chacun et chacune, mais de tout faire péter. » À partir de là, si on prend la suite des deux, il y a 10 ans d'écart à chaque fois, bon, là on a un peu de retard, mais si, si, 31 janvier, c'est fait.
Donc on nous souhaite des bonnes manifs pour cette année.
Pavé sur vous.
Oui, on peut souhaiter tellement de choses aussi minimes, aussi immenses, mais notamment peut-être un autre gouvernement. Parce que qui change quelque chose, je doute que du coup ça soit possible, mais au moins qu'on en change ou qu'on change de système, ça serait encore mieux. Ouais. On souhaite aussi individuellement que chacun, chacune...
puisse se réaliser comme un beau papillon.
Exactement.
Oh, c'est joliment dit.
Une acceptation de l'autre dans tout ce qu'il est, dans toutes ses différences, dans tout ce qui fait qui nous rend aussi uniques. Là, on peut souhaiter, on peut citer quand même les magnifiques vœux de Novice Satine.
Cœur sur elle.
Voilà, qui du coup nous a expliqué il n'y a pas très longtemps que quand tout le monde fait ses vœux, donc elle souhaite aux personnes je te souhaite tous les vœux que tu mérites.
Oui.
Voilà.
Ça, au moins, c'est clair.
Voilà. Ce qui permet, du coup, quand vous n'appréciez pas forcément la personne, de lui souhaiter. Et même quand vous l'appréciez aussi.
C'est cordialement.
Voilà. Bien cordialement, au revoir.
Moi, pour la petite note aussi, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a les collectivités territoriales, je trouve, ont beaucoup moins accès à leurs vœux. Notamment, la plupart ont arrêté d'envoyer des vœux papier. Pour notamment, et l'expliquent vraiment souvent dans leurs vœux, hein, qu'ils ont arrêté le budget vœux en papier pour le faire par mail. Il y a encore un gros coût écologique en fait de s'envoyer des mails.
Donc, ça, que très très peu de gens encore sensibilisés à ça, effectivement. C'est resté complètement obscur comment le numérique, tout ça fonctionne et toutes ces grosses databases qui sont planquées, je ne sais plus où, au Groenland ou je ne sais pas trop quoi, là, qui participent au réchauffement de la planète, il y a très peu de gens qui le savent ou en ont conscience et où ils imaginent un autre mode de faire. Hein, où,
effectivement.
C'est, oui. Ouais, ouais, c'est stopper la dromacarde, ouais. Juste payer un café ou un thé à votre collègue et il sera tout aussi heureux ou heureuse.
Ouais.
Oui. Ah, la dromacarde, ça se fait encore alors. Ah, je ne sais pas si on regarde que ça alors. Si on s'envoie.
je crois que c'est assez saine et c'est un peu comme caramel.
Ma mère faisait ça. Et, d'accord. Oui,
et
oui,
MSN.
Nostalgie, ah, ok.
Ah oui. N'envoyez pas de oui, s'il vous plaît.
Non, verra.
En tout cas, chez les sœurs, on vous fait les vœux toute l'année. On vous souhaite toute l'année et pas que ce mois-ci, en tout cas, d'être vous-même. Et
vous êtes merveilleux et merveilleuse.
C'est magnifique. Ouais, bah... Et moi, j'ai pas dit.
Ah bah ouais.
Ce que je présente, mais je dis pas. Non, moi, pour cette année, franchement, ce que j'aimerais, c'est que, étant donné ce qui a été ravivé avec la loi sur la PMA pour toutes et tous, c'est ce relan homophobique qu'on a subi il y a déjà 7 ans de ça et qui se remet dans le lot. Donc, j'espère qu'au niveau LGBT-phobie, il n'y en a pas autant de ce qu'il y a eu ces dernières années. Donc, pour moi, ça serait pour la communauté qu'on soit un peu épargné cette fois-ci. Voilà, c'est ce que je pouvais dire.
Tout à fait. Bonne année.
Bonne année. Oui, je suis un peu... Mais voilà, c'est un message d'espoir. Lily ?
Oui ?
Are you ready ?
I am ready.
Donc, jingle, et ça va être à toi.
La chronique badass.
Get away from her, you bitch !
Réveillez-vous, les filles ! On va laisser les hommes sauver l'univers ?
Dodge this.
Alors, aujourd'hui, dans la chronique badass, donc pour une première de l'année, je me suis dit, mais comment démarrer, hein ? Est-ce qu'on est dans un thème ou pas ? Est-ce qu'une meuf badass aurait un jour révolutionné le réveillon ? Je ne sais pas. Ou le premier de l'an ? Ou les étrennes ? Ou les sempiternels vœux pour l'année à venir ? Voilà. Puis bon, entre le mal au foie et le mal au crâne post-obligation familiale, je me suis reprise. Hein, je me suis dit, pas d'égarement. Et puis j'ai été rattrapée, encore une fois, hein, vous me direz, par l'actualité et son petit air apocalyptique.
Donc, à peine.
Non, je ne parle pas des multiples drames de la grève exposés sous toutes les coutures dans les grands médias. Hein. Non, on va s'en remettre, ça, c'est pas la pointe d'apocalypse. Hein. Mais plutôt de la tentation de la guerre qu'une bande de couillus, non barbus et barbus sont en train de nous préparer dans cette région du monde que nous appelons Moyen-Orient. Proche-Orient, c'est jamais très bien. Faut dire ce qui est, hein, quand même, entre la Syrie à feu à sang depuis 8 ans et l'Irak en ruine depuis 30 ans, l'Iran qui, dans un souci de réciprocité, hein, soyons clairs, hein, quand même, vient faire comme les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Turquie, la Chine et j'en passe, c'est-à-dire jouer à la guerre loin de chez eux pour garder une main mise sur le pétrole, hein, on se dit que cette région est maudite, quand même, hein. Car en plus, c'est pas tellement nouveau. Hein. Elle était déjà le terrain de jeu des presque mêmes couillus, hein, surtout les Français et les Britanniques, donc tout au long du 19e siècle. Hein. Donc, pour ceux qui imaginent que c'est loin, on s'en fout, ça ne nous concerne pas, eh ben si, quand même un petit peu. Hein. Mais bon, alors, promis, hein, ces couillus, ces grands leaders du monde, les plus grands, les plus forts, les plus riches, et ceux qui veulent être calife à la place du calife, est-ce qu'il y aurait une once d'espoir, hein ? Bon,
on l'espère.
Voilà. Alors, je ne vais pas nous déprimer dès janvier. Hein. Alors, pour la touche badass, la touche projet de société, construction de civilisation, je suis allée voir en Assyrie. Et oui, un autre nom pour cette région du monde, ou plutôt le nom qu'on lui donnait 2000 ans avant Jésus-Christ. Et jusqu'au 7e siècle, toujours avant JC, pour les intimes. il faut donc savoir, hein, donc, cette région-là s'appelait l'Assyrie. Et donc, il faut savoir que Samouramat, qui voudrait dire paradis extrême, ou Sémiramis, en grec ancien. Oui, parce que ça fait vraiment longtemps, hein, que les Européens ont fait des trucs, genre on n'accepte pas les noms tels qu'ils sont, on les traduit, on les change, on les adapte. Hein. On est un peu pénible, hein, c'est un peu comme ça. Donc voilà, cette région Assyrie, qui était l'Iran, l'Irak, la Syrie, qui descendait des fois jusqu'à l'Égypte. On a vu naître donc, cette Samouramat, qui était une femme qui a été mariée à un grand roi de l'époque, qui régnait quand même sur un territoire qui, selon l'histoire, va de l'Égypte à l'Iran. Et donc lui, il meurt, hein, pour aller vite, hein, il meurt. Et comme leur fils est trop jeune pour régner, bah, hop, elle en profite. Il y a une fenêtre là, tac. Elle monte sur le trône en 811 avant JC, toujours pour les intimes. Et donc elle monte sur le trône en tant que régente, donc c'est d'elle dont je veux parler, hein, vous l'avez compris, la chronique. Donc Samour Hamat, elle a tellement marqué ses contemporains que de nombreux mythes naissent de son histoire. Parce que vous imaginez bien qu'en 800 ans avant Jésus-Christ, tout, ça fait vraiment longtemps, donc on a un petit peu du mal à faire l'histoire quand même. On fait ça avec des trucs qu'on retrouve, des bouts de machin, des bouts de tablettes, voilà.
Entre mythes et réalité.
Voilà. Et donc, ce qu'on sait maintenant, à l'heure actuelle, c'est que les historiens, savants et écrivains antiques parlent d'elle dans leurs ouvrages, mais aussi dans les différentes cours royales qu'ils fréquentent. Donc, elle a quand même une certaine renommée. On lui attribue, selon les sources, selon les mythes, un règne de 42 ans, pendant lesquels elle agrandit, certes, le royaume, hein, donc aussi hein, par des campagnes militaires, hein, évidemment, et impressionne ses adversaires. Mais surtout, elle serait à l'origine de la création de la cité mythique de Babylone, hein, qui connaît son apogée au 6e siècle avant J.C., toujours pour les intimes, et qui va diriger un empire, donc cette cité va diriger un empire dominant une vaste partie du Moyen-Orient, et sera une des plus grandes cités du monde. Ces ruines actuelles, encore, et on n'a pas encore tout découvert, occupent presque 1000 hectares. Donc, faut imaginer ce qu'elle a mis en œuvre, hein, cette nana à l'époque. Et donc, elle aurait fait détourner l'Euphrate, qui est un grand fleuve d'Irak, pour contourner la cité et ériger 70 km de remparts. Selon d'autres historiens, elle serait aussi à l'origine de la construction de trésors archéologiques comme le palais royal et le temple de Marduk, une des grandes divinités sumériennes mésopotamiennes, et également l'une des sept merveilles du monde antique, les jardins suspendus de Babylone. Voilà, elle en serait, selon la légende, à l'initiative. Donc elle mène pendant son règne des expéditions jusqu'à l'Indus, elle subjugue l'Égypte où l'oracle Amon lui prédit sa fin par trahison de son fils, hein,
oui, patriarcat oblige. Elle a régné 42 ans, en attendant que son fils soit majeur, voilà, en fait.
Ouais.
Donc le fils était majeur depuis un moment.
Lui, il devait attendre.
Il a attendu trop longtemps, donc à un moment, il s'est dit, tiens, je vais glisser un truc à l'oreille de Amon.
Mais bon, à l'époque, n'avait pas réformé encore la majorité. Il attendait son règne.
C'est ça. Après, selon les sources, elle a un règne de 5 ans, de 42 ans. Voilà, j'ai un peu choisi aussi la version qui me plaisait. Je fais l'histoire, je ne me gêne pas. Ouais. Comme les historiens, j'ai choisi l'angle qui m'intéressait le plus.
Effectivement.
Donc voilà, et... Donc le patriarcat oblige, son fils l'aurait trahi, donc on a peu de notions sur comment elle est morte. Certains disent qu'il l'aurait assassinée, d'autres disent qu'elle est partie en retraite du coup en Éthiopie. Donc c'est pour imaginer la taille en fait de l'empire et la mobilité des personnes déjà à cette époque-là. Ouais. Entre l'Éthiopie et l'Iran, il y a quand même un bout, hein, on ne voudrait pas dire. Hein. Ou d'autres disent qu'elle se serait jetée sur un bûcher. Bon, bref, c'est un peu compliqué hein, à l'époque de savoir.
Bah oui,
comment...
il y a des bûchers, hop, la personne voilà, hop, arrive là.
Voilà, c'est un truc très féminin, voilà. Comme à l'Inquisition.
Oh, un bûcher, oh, bûcher. Oups. Voilà. Genre, personne t'y pousse non plus.
Non, c'est... voilà. Elle est tombée toute seule, c'est pas moi.
Mais donc, difficile de faire le tri dans sa vie entre l'histoire et le mythe, mais toujours est-il que soit les couillus actuels devraient s'en inspirer, ou soit laisser la place et les meufs actuelles prendre le pouvoir pour faire à nouveau de cette région berceau des civilisations un havre où une vie épanouie est possible. Voilà.
Merci Lily. Merci.
Ça fait un petit clin d'œil au prince Charles avec la reine Elisabeth, en fait, hein, qui lui aussi attend depuis des années, des années.
Et pour l'instant, il ne l'a toujours pas poussé du carrosse.
Non, pas de bûcher.
Mais ouais, elle esquive les bûchers.
Bah merci Lily pour la chronique, merci aux sœurs de la perpétuelle indulgence, merci sœur Pupus et merci novice
merci le gang,
Simona Cal d'être passée pour l'enregistrement. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Sinon, on se dit au mois prochain, à la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.
Le gang des histoires.